La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
OK, tu veux nous parler du panier bleu qui est maintenant transactionnel.
Ouais, il annonçait ça aujourd'hui, grande pompe, là, article de journaux. Le panier bleu est transactionnel. Si tu cherches un Coke, un orangeade ou tout sauf de la root beer, tu peux aller sur le panier bleu, Patrick, mais ça prend des conditions. Et ça, je trouve ça taquin un peu. Oui, il faut que t'aies faut que tu sois 51% des actionnaires qui soient des actionnaires québécois. Faut que ton siège social soit au Québec ou 75% des commerces. Bon, on s'entend, des technicalités. Mais ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a des choses que t'as pas le droit de vendre sur le panier bleu.
Comme?
Et je te cite, alors, certaines catégories de produits pouvant heurter la sensibilité du public ne sont pas vendables sur le panier bleu. Alors, des produits érotiques.
Ben.
Alors, Patrick, imagine-toi donc.
Mais on... attends une minute, où tu me cites?
Je te cite le panier bleu, c'était écrit sur le panier bleu.
Je pensais que tu me citais moi.
Non, Patrick, pas toi.
On est dit sur les jouets érotiques québécois.
Non, mais Patrick, pense-y, là. Tantôt, je vais chez Jean Coutu. Okay?
Jouir local.
Meilleur gag l'année.
Je m'en vais chez Jean Coutu tantôt. Je commande des pilules pour mon gars. Je m'assois entre deux personnes âgées à côté du Sphygmo Manomètre où on dit t'es encore en vie. Et là, il y a une vitrine devant moi, Patrick. Il y a des womanizers, des affaires pour la pression artérielle.
Excuse-moi, c'est quoi des womanizers?
C'est un jouet sexuel pour femmes qui bat n'importe quel plaisir personnel.
Et comment ça se fait que tu connais ça?
Ben parce que n'importe qui connaît une femme au Québec en bas de 50 ans connaît le womanizer.
Okay. Je connaissais pas ça, mais...
Alors, parle-en aux filles autour de toi, Patrick. Elles connaissent tout ça.
Et pour
te dire?
Non. Il y en a une autour de moi. Non, quatre connaissaient pas ça.
OK, il y a aussi des filles qui disent ne pas connaître et d'autres qui disent connaître. Mais revenons au
point de
base. On s'égare. C'est pour dire qu'on est puritain sur le site alors que Jean Coutu l'est pas. Tu comprends? On n'a pas le droit de vendre de la drogue, des produits alcoolisés, évidemment. Mais ce qui est drôle, c'est aussi les autres conditions. Si, par exemple, Patrick, tu vas sur le panier bleu, là, on veut concentrer les achats des Québécois, puis que tu achètes 3-4 affaires, puis tu mets ça dans un seul panier, puis tu marques « acheter ». Mais imagine-toi donc que si jamais tu n'atteins pas le seuil de gratuité, évidemment, d'un commerçant, qui est normal, tu vas payer 10$ de frais de livraison plus taxes. Mais l'affaire, c'est que si tu achètes de 3 commerces différents dans le même panier, tu vas payer 3 fois les frais de livraison. Alors, je te donne un exemple. Tu t'en vas t'acheter 3 chandelles, OK? Mm-hmm. À 10$ de 3 commerces différents. Là, tu te dis, ah, je dépasse, disons, le seuil minimum pour pas avoir de frais. Non, c'est par commerce. Donc, tu vas payer 10$ plus taxes de livraison par chandelle. Ça revient cher de la chandelle. Et ça nous démontre une chose, c'est que le commerce électronique veut pas. Faut que ce soit par commerce quand tu vends ou quand tu fais une livraison, parce qu'il faut que tu amortisses les frais de livraison. Mais la constatation est encore plus large que ça, Patrick, parce que on va revenir à l'essence même. Ça aide des petits producteurs sympathiques qui veulent vendre des produits faits locaux ou un designer local ou quelque chose, mais les grands magasins québécois ou les PME qui sont, disons, bien opérationnels, ne peuvent pas passer par le panier bleu. Il y a des contraintes qui sont trop grandes. Donc, c'est vraiment pour « je fais de l'artisanat, je vends sur le panier bleu », t'offres un produit complémentaire.
Vous écoutez La Chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Vous écoutez La Chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
OK, parle-moi de salaire maintenant, tout autre sujet. Divulguer les salaires dans les offres d'emploi, est-ce que c'est une bonne idée?
Bien, il y a un sondage qui dit, dans les médias, on dit, regardez, les gens sont 76% d'accord que s'il y a une offre d'emploi, on devrait divulguer le salaire. Donc, ça devrait être écrit, ça paye tant, qu'on puisse se comparer puis pas perdre notre temps. D'un autre côté, ces mêmes personnes-là, tu leur demandes, est-ce que vous accepteriez qu'on divulgue vos salaires d'emploi, de votre catégorie d'emploi? Une fois que vous êtes à l'embauche, tu sais, seulement 43% sont d'accord. Donc, ils sont prêts à dire, c'est obligatoire de le montrer avant, mais on veut pas que vous le divulguiez après. Et il y a des raisons pour ça, puis là, je vais parler de rémunération en général. Ce que ça aide de divulguer, c'est que ça aide à éliminer la discrimination homme-femme, culturelle ou autre, ou religieuse. Mais, d'un autre côté, le salaire, c'est comme le reflet de ta valeur. Alors, oui, dans des jobs où on peut refléter la productivité par le salaire, ça va. Je travaillais dans une usine avant, tu étais payé à l'unité des pneus que tu envoyais des sprays à l'intérieur. Ça, c'est mesurable facilement, quantifiable et facile. Mais la valeur d'un individu, pas facile. Mettons que j'arrive dans les bureaux du Bosch, assis à côté d'MC Gilles. Puis là, MC, il dit, je suis plus drôle que Pierre-Yves. Moi, je réponds, ouais, mais je suis moins barbu. Tu sais, il y a des facteurs qui sont un peu plus qualitatifs. Mais va dans d'autres types d'emplois. Si tu arrives dans un emploi où la relation client est payante pour l'entreprise et qu'il y a une personne qui a un avantage, une capacité de développer des relations avec le client ou un carnet de relations clients, faut que tu rémunères plus cette personne-là. Mais est-ce que tu veux le divulguer à tous les autres employés qui vont te faire des protèges à l'intérieur?
Tu sais qu'il y a, c'est pas pour les salaires, mais en Scandinavie, je pense que c'est en Finlande, là, les rapports d'impôts sont publiés.
Ouais, ça c'est fou, hein?
Oui.
Tu vas être comparé.
Mais sais-tu quoi? Ça peut nous heurter, puis on peut se dire, waouh, ça n'a pas de bon sens. Mais si tout le monde est dans le même bateau, ouais. Moi, je te dis, ça ne me dérangerait pas tant que ça. Par contre, tu es dans une entreprise qui le fait, puis il n'y a personne d'autre qui le fait, ou peu de gens, bien là, je ne suis pas le premier tata à révéler mon salaire.
Puis l'autre affaire, c'est qu'en Amérique du Nord, il y a le système de rémunération incitative beaucoup. Et là, je te mets dans un contexte où, par exemple, tu as une enveloppe de bonus de fin d'année. Et là, il faut que tu redistribues cette enveloppe-là à travers les employés selon ce que tu crois de ceux qui méritent le plus par rapport à des critères. Imagine si tu rends ça public, toi, là. Ah ben, comment ça? Gilles a eu 2000$, puis moi, j'ai eu juste 1000. Comment se fait qu'elle a eu 1250$ pour telle période? Moi, j'ai eu juste 500. Et là, tu commencerais à avoir des chicanes internes, alors que la rémunération incitative, son but, c'est justement d'être discriminatoire et de payer plus ceux qui ont apporté plus de valeur selon l'employeur. Imagines-tu? Et je vais t'amener une autre variable. Tous les gens qui doivent de l'argent à des gens ou qui doivent payer des pensions ou peu importe, imagines-tu si leur salaire était public, ça réglerait bien des problèmes, tu vas me dire. Mais imagines-tu les problèmes de jalousie, de privilège? Donc ça aussi, c'est de la sensibilité.
Oui, mais c'est du quoi? Ben des femmes qui te diraient, ça forcerait beaucoup d'entreprises et d'organisations à payer les gens équitablement.
Tout à fait. Mais le problème...
Bien dit, Patrick.
Oui. Par contre, Catherine, ce que je te dirais dans l'opposé, c'est que mettons que tu es une des filles qui est privilégiée et qui a bien négocié sa paye. Et là, que là... Il y a d'autres gens qui apprennent ça, puis là, ça devient comme la Ligue nationale de hockey. Tout le monde augmente sa paye, tout le monde se chicane, tout le monde s'obstine, mais ça rend aussi ton travail précaire dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'avantage que tu avais, là, tu peux plus te distinguer des autres financièrement par le salaire, puis de profiter de ton privilège parce que c'est public. Là, les autres le veulent, le patron te le donne plus. Donc, si tu le négocies bien, ton privilège, tu peux l'avoir dans un monde secret. Si tu le négocies pas bien ou tu peux pas le négocier, ben tu sais, je comprends que c'est un autre enjeu. Mais quand tu l'as...
C'est à double tranchant, mais oui. En même temps, il y a tellement eu d'inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Je pense qu'on est rendu à un point qu'il faudrait peut-être ramener ça avant de penser à l'autre aspect.
Ça dépend du type d'emploi, encore une fois. T'sais, c'est un milieu professionnel où la valeur marchande est différente. Je te donne un exemple. Je m'assois à côté de Véronique Loutier, je te garantis qu'elle gagne plus que moi. On est d'accord? Puis que sa valeur marchande est plus grande que la mienne. Mais pourtant, c'est une femme. Mais là, tu vois, c'est différent. Là. On parle de deux affaires différentes, deux jobs différents, deux valeurs différentes. Donc, il y a des domaines où la valeur marchande, elle se calcule autrement. Mais tu as raison que si tu arrives dans un milieu, deux profs devraient gagner le même prix, deux gestionnaires de ressources humaines avec des charges équivalentes, avec des performances équivalentes, devraient gagner le même prix.
Ben, deux cadres en entreprise, là, faut pas juste ramener ça aux médias, mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une illégalité, comme deux avocats qui travaillent pour le même bureau avec le même nombre d'années d'ancienneté, selon moi, devraient gagner le même salaire.
Et là, les bureaux d'avocats...
Juste l'ancienneté?
Ben, déjà,
si,
avec l'ancienneté...
S'il y en a un qui rentre 5 millions dans business, puis l'autre en rentre 2?
Ben là, ils ont des primes selon l'argent qui rentre.
Et je vais dire une affaire. Voilà, ça, c'est facile d'avocat, à régler. Dans les firmes d'avocats, là, ils t'entendent présentement, là, puis ils viennent d'avaler leur café de travail parce qu'ils disent, s'il faut qu'on paye tout le monde égal, on va faire notre profit parce que c'est une pyramide basée sur le fait qu'il y en a qui font de l'argent.
Et puis arrive, décision, les ressources humaines m'informent, on va publier ton salaire, on va le couper en deux, puis on va le distribuer à toutes les femmes de l'équipe. Désolé, mon vieux, mais c'est comme
ça que ça marche. Aucun problème, mais je vais te remettre ma démission, évidemment, parce que je travaille pas à moitié prix.
Oui, je suis pas sûr que ça paye autant ailleurs dans le marché.
Ben,
merci, Pierre-Yves.
C'est payant hein, de se morphoser.
Bye bye! Bye.
C'est 23.